Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Armella Lung. Elle est notamment autrice d'une BD qui compte jusque-là 3 tomes et qui s'appelle Émotions, Enquête et Mode d'emploi. Vous pouvez aussi la retrouver sur son site Conscience Quantique, dont je laisserai le lien en description du podcast. Nous allons donc parler des émotions, mais des émotions de l'adulte. Parce que bien souvent, on explique aux adultes et aux parents qu'il faut accompagner les émotions des enfants. Mais comment on fait quand nous-mêmes, nous sommes plutôt des désastres émotionnels et comme dirait Hermione Granger, que nous avons la capacité émotionnelle de petite cuillère? Nous allons essayer de répondre à la question « qu'est-ce qu'une émotion ?» Comment est-ce qu'on a pu se construire avec nos émotions, notamment par rapport à notre sexe et notre genre? Et quelles solutions pouvons-nous penser aborder pour avancer sur le chemin d'un équilibre plus serein avec nos émotions? Je vais donc commencer tout de suite avec une première question très directe. C'est quoi une émotion? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Tac, vite dans le vif du sujet. En fait, une émotion, déjà si on revient à la racine latine, ça vient de emovere, et donc ça veut dire mouvement. Donc une émotion, c'est une énergie qui nous met en mouvement. D'ailleurs, on peut le remarquer, je ne sais pas si ça t'est arrivé, moi j'ai eu des périodes de vie où ça m'est arrivé de ne pas avoir d'émotion, et bien c'est très perturbant. Parce que du coup, c'est limite pas arriver à se lever le matin, en fait. Parce qu'aller dans une direction ou une autre, il n'y a pas d'énergie. Donc les émotions, c'est pour moi une énergie naturelle au service de la vie. Et la vie, qu'est-ce qu'elle veut? La vie, ben, elle veut se conserver déjà. Donc c'est là qu'on va retrouver toutes les émotions liées à la survie. Donc attaque, fuite, mouvement, peur, colère. Et la vie, elle veut s'épanouir. Elle veut s'accomplir. Donc, c'est là qu'on va retrouver toutes les émotions, joie, enthousiasme, qui vont nous permettre de créer, d'avancer, de créer du lien aussi, parce que la vie est créatrice de liens, de vivre des émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit la joie, la tristesse, la peur ou la colère, ensemble, c'est ça qui crée du lien aussi. J'aime bien aussi la définition des émotions d'un physicien qui s'appelle Philippe Guillemant. Dans un de ses livres, en fait, il parle des émotions comme d'un système d'attraction-répulsion. Donc, on serait attiré par les choses qui nous font du bien et repoussé par les choses qui sont mauvaises pour nous, en fait. Du coup, ça serait un peu comme une boussole. Tu aurais le plus en haut, genre le nord, hey, c'est ton chemin d'accomplissement, vas-y, c'est agréable, continue, fonce. Et puis, quand ça devient trop négatif, peut-être que je vais changer de direction. Non, c'est une information intéressante aussi, donc je la prends. C'est pas, peut-être pas la bonne direction pour moi, donc je vais réfléchir à si je ne veux pas changer de chemin. Et puis, il y a une image que j'aime bien aussi, c'est celle des voyants de tableau de bord. T'imagines que c'est comme si tu étais une voiture, en fait. Et sur ton tableau de bord, en fait, il clignotait des lumières pour te signaler les besoins de ton véhicule. Donc, les émotions, ça peut aussi jouer ce rôle-là. Donc ça peut être bon, il y a le voyant d'essence qui clignote, ok, je mets de l'essence. Il y a le besoin de fatigue qui clignote, ok, j'ai besoin de quoi? De dormir, de me ressourcer, j'en ai marre, ok, il y a le voyant j'en ai marre qui clignote, c'est quoi? J'ai besoin d'évolution peut-être dans la situation actuelle, j'ai besoin de plus de sens. Voilà, donc il y a aussi une façon de décrypter les émotions avec les besoins. Et du coup, en fait, dans ce sens-là, les émotions, ça se permettrait de signaler un déséquilibre pour pouvoir tout simplement le rééquilibrer après. Tu mets de l'essence dans ta voiture. Donc, dans ce sens-là, c'est hyper simple. Tu serais attiré par ce qui est bon pour toi, repoussé par ce qui ne l'est pas. Quand tu as une voiture qui indique « mets de l'essence », tu mets de l'essence. Et c'est là que tu me dis « mais alors pourquoi on galère tous avec nos émotions ?»
Pourquoi on galère? Et puis pour le coup, alors moi j'aime beaucoup les définitions que tu as utilisées parce que je trouve que ça met bien en exergue les émotions, alors qu'on appelle positives ou négatives et que moi je préfère appeler agréables ou désagréables. Mais ce que je comprends, c'est qu'elles ont tout un rôle à jouer en tout cas.
Oui, totalement.
D'accord.
Elles ont tout un rôle à jouer.
Mais nous en tant qu'adultes, On nous a appris à gérer nos émotions.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans le concret?
Ça dépend de ce que tu mets derrière. C'est comme n'importe quel mot, chacun peut utiliser le même mot en ayant une définition différente. Donc, pour certaines personnes, gérer les émotions, ça va être juste pouvoir surfer sur ce qui arrive, surfer sur une vague. J'aime bien cette image parce que les émotions et l'eau, symboliquement, ça va bien ensemble. Ton rêve de l'eau, la nuit, souvent, c'est lié aux émotions. Donc, tu imagines que tu as ta vague émotionnelle qui arrive. Ok, tu surfes dessus, tu t'adaptes, tu retrouves l'équilibre et hop, ok, bon, bah, t'as géré. Ouais, super, j'ai géré, et puis voilà. Ou tu peux aussi avoir, derrière gérer les émotions, la notion de contrôle. Et effectivement, c'est souvent ça qu'on va avoir dans la société, parce que c'est une société où le contrôle est vachement mis en avant. Et du coup, là, comment tu vas gérer tes émotions? Bah, tu vas mettre des barrières. Tu vas mettre des digues, tu vas essayer de tout contrôler, il n'y a pas une goutte qui doit couler. Et jusqu'au jour où, à force de s'accumuler, l'eau derrière, bah, bah, t'as la barrière qui lâche, et bah, c'est le drame.
Et j'aime beaucoup l'image de la vague. Moi, je trouve ça top, sauf que, tu vois, je trouve aussi que ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'on peut vraiment la confronter à des situations très réelles. Par exemple, tu parles de surf, mais justement, si on nous a pas appris à surfer, on sait pas forcément le faire.
C'est ça.
Et j'aime aussi l'idée que bah, des fois la vague on la voit pas venir et aussi. On la prend dans la tronche, tu vois, on la prend dans la tronche. Ouais. Et comment on fait dans ces cas-là quand on l'a pas vu venir et puis qu'on se la prend en pleine tronche?
Et bah si t'étais un surfeur, qu'est-ce que tu ferais?
Je sais pas surfer justement, ça tombe bien.
Et ben, j'imagine que bah, j'ai pris un cours de surf. Alors, hein. Bon. tu te la prends dans la tronche. Alors, des fois, quand il y a une grosse vague, c'est plus simple d'aller profondément sous l'eau pour éviter d'être trop secoué. Mm-hmm. Après, tu fais comme tu peux, quoi. Tu fais comme tu peux. Et après, il se peut que c'est une vague, en fait, qui t'a surpris aussi parce que d'habitude, tu surfes vers Bordeaux. Et là, en fait, tu te retrouves sur une plage en Australie et les vagues sont pas du tout pareilles. Ce qui arrive aussi dans la vie, quoi. On a beau être des adultes, on est confronté à des situations différentes, nouvelles, qui nous font grandir. Et ben là, du coup, tu te dis juste, ok, c'est ok, c'était nouveau. Et ben du coup, j'apprends, j'observe, j'apprends à mieux me connaître, à mieux connaître ce genre de situation, et je grandis avec ça. Je m'enrichis en fait de cette expérience.
Ok. Non mais d'accord, ça me parle plus et j'aime beaucoup cette image pour le coup du surf par rapport à l'émotion. Dans tes BD, on découvre qu'il y a toute une palette d'émotions. Moi je t'avoue que la première fois que j'ai ouvert le tome 1 de tes BD, je me suis dit waouh, ah ouais, ça fait quand même un sacré paquet de mots pour beaucoup d'émotions. Sauf que dans les faits, les adultes que nous sommes en reconnaissent allez, 4 ou 5, tu vois.
Ouais.
Comment est-ce qu'on peut faire pour découvrir ou redécouvrir nos émotions?
Alors, je dirais que les émotions, du coup, dans ce sens-là, c'est un peu comme des couleurs. Ce que tu es en train de me dire, c'est « Ouais, ben en fait, il y a toute une palette de couleurs d'émotions, mais en fait, on n'en connaît pas forcément énormément une fois adulte. » Et en fait, je voudrais te dire, si tu connais déjà toutes les couleurs primaires, c'est déjà pas mal, en réalité. Parce que ce qui se passe souvent en réalité, c'est qu'on a des préférences émotionnelles. Du fait de notre éducation et tout. Donc, certaines personnes, par habitude, en fait, vont colorer plus tout en bleu. Genre, ils vont avoir plus d'affinité avec la tristesse. D'autres personnes vont colorer tout en rouge parce qu'ils vont plus avoir d'affinité avec la colère. D'autres tout en gris à cause de la peur. Et puis d'autres, en fait, naturellement, en jaune parce que ça va être des personnes joyeuses qui ont été accompagnées avec ça. Donc, on a souvent des dominantes colorées. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si c'est quelque chose qu'on a envie de faire évoluer, ben là, on peut déjà se poser la question, quelle couleur j'aimerais plus avoir dans ma vie? Alors, est-ce que j'aimerais avoir plus de jaune, plus de joie? Est-ce que j'aimerais avoir plus de rose, plus de tendresse? Et après, ben, logiquement, il s'agit d'aller là où j'ai le plus de probabilité de rencontrer ces couleurs. Donc, par exemple, tu vois, j'aurais envie de nature. Bah, j'irais me mettre au vert, que ce soit dans un parc ou vraiment à la campagne. Donc voilà, c'est logique. Et du coup, bah, dans la vie de tous les jours par rapport aux émotions, Si je reste dans un bain de news anxiogène, faut pas s'étonner que du coup la colère, enfin l'émotion dominante après ça va être la peur. Ou si je vais dans des groupes de contestation, bon ben voilà, ben ça va être le rouge, quoi, la colère. Donc si toi ce que tu as envie de développer plus c'est la joie, ben du coup c'est par exemple qu'est-ce qui pour toi t'amène plus de joie? Ça peut être certains types de musique, ça peut être certains types de films, ça peut être certains types d'amis. Enfin voilà, c'est vraiment à se demander soi personnellement, parce que c'est vraiment personnel à chacun, qu'est-ce qui apporte plus de cette couleur-là que j'ai envie de voir plus dans ma vie, pour pouvoir les inviter dans ma vie. Et après, la dernière chose, si on reprend l'image du parc, où voilà, j'ai envie de faire et puis j'ai envie de découvrir plus de nuances. Et ben ça va être de porter plus d'attention à ce que j'ai envie de ressentir dans ma vie. T'imagines, tu te balades dans un parc ou dans une magnifique forêt, tu peux juste traverser la forêt et te dire, ok, j'ai vu du vert et du marron, quoi. Ou tu peux vraiment prendre le temps d'être là et de regarder toutes les nuances de vert, de regarder qu'en fait, il n'y a pas que du vert, il y a des couleurs, il y a des fleurs, qu'il y a du marron, qu'il y a... et cette texture, et voilà, et comment ça me fait sentir cette texture. C'est comme si, à force de la regarder, je pouvais la ressentir, l'amener à l'intérieur, ça me fait vibrer. À quel endroit ça fait vibrer mes cellules, tu vois? Donc, du coup, on peut aller dans plein de dégradés de vert, et tout. Et du coup, là, c'est vraiment le fait de porter son attention et de pouvoir s'émerveiller qui va permettre de développer, en fait, cette palette de couleurs. Bon, il faut quand même avouer que souvent, quand on ne ressent pas énormément d'émotions, il y a aussi le facteur anesthésie qui joue. C'est un phénomène naturel de survie qui n'a pas que chez les humains, d'ailleurs, chez les autres animaux. On anesthésie et à quoi ça sert? Ben, ça évite de souffrir. Donc, quand on ne ressent pas beaucoup d'émotions, qu'on est anesthésié de ses émotions ou qu'on a même du mal à avoir accès à son corps, tellement c'est anesthésié. Là, par contre, je pense que ça peut être lié à des blessures émotionnelles du passé ou d'autres choses ou des croyances qui disent que c'est mauvais d'avoir des émotions, que c'est dangereux. Et là, je pense que c'est plus facile d'être accompagné pour vivre ça pour le coup. Pour dépasser ses croyances, pour guérir de ses blessures, voilà, ça va être plus facile d'être accompagné.
Oui, tout à fait. Et puis, pour le coup, je trouve que ça rejoint aussi un peu le sujet qu'on évoquait tout à l'heure. Même, j'ai envie de te dire, on parlait de vagues tout à l'heure. Je pense que si on se prend une vague dans la tronche, bah, peut-être aussi que quelqu'un peut venir nous aider à remonter à la surface. Ça peut être intéressant d'avoir des gens qui
Ouais.
peuvent nous aider. Je ne parle pas spécialement d'accompagnement professionnel, mais c'est là où nos figures d'attachement dans notre vie peuvent intervenir aussi pour nous aider à traverser ces moments. Et tu parles de croyances, et là tu touches un sujet qui m'intéresse particulièrement, ces croyances un petit peu limitantes qu'on peut avoir sur nous-mêmes et sur nos émotions. Ce qui m'interpelle aussi, c'est le fait qu'elles vont être construites dans certains stéréotypes aussi. Par exemple, on l'a déjà évoqué dans ce podcast, l'émotion de la colère, qui est très 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 reconnue chez les garçons, chez les hommes. Va être plutôt, on va plutôt amener les filles et les femmes à la taire, justement, à la contrôler.
Ouais, tout à fait.
Ça fait partie des croyances dont tu peux parler?
Oui, tout à fait. Et ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur ben, qu'est-ce qui fait que, au final, si c'est si simple, les émotions, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour nous de les vivre? Et ben, si tu reprends l'image de la boussole. Tu te souviens, la boussole, les émotions agréables, bon ben voilà, ça c'est ce qui est bon pour moi, et les émotions désagréables, c'est plutôt pour me dire que c'est pas le bon chemin personnel. Et ben, imagine que tu as une croyance au hasard qui te dit il faut souffrir dans la vie, grosse croyance judéo-chrétienne, et ben là, ta boussole de base, elle marche plus, tu vois. Le truc, je vais vers ce qui me fait plaisir, bah ça marche plus. C'était juste, voilà. Et si tant est que en même temps tu te dises ou séparément, si tu te dis il faut aller bien tout le temps, grosse croyance de notre société, il faut que en surface tout aille bien, tu vois. C'est si ça a l'air honte si jamais ça va pas bien. Là tu mets un gros voile sur ton tableau de bord, tu vois plus les trucs clignoter, donc tu peux te dire que tout va bien, tu peux te voiler. la face en te disant que tout va bien, mais en fait non, t'as juste caché le voyant de ton tableau de bord. Et alors, gros bonus, si t'as les deux, il faut souffrir dans la vie, mais il faut être bien tout le temps. Là, t'es jamais bien, quoi. Parce que t'essaies d'aller bien parce qu'il faut être bien, mais en fait, une fois que t'es bien, tu dis, ah ben non, il faut pas que je sois bien, donc tu t'autoflagelles. Et en fait, voilà, toute ta vie est un enfer, juste à cause de croyances. Et pour revenir à tes croyances stéréotypées, eh ben, effectivement, que ce que tu évoques sur la colère qui est permise pour les hommes, ben, ça vient du modèle du guerrier pour moi. Voilà, on vient de millénaires où pour survivre, on se mettait en clan et puis il fallait donner naissance à des guerriers pour pouvoir combattre le village d'à côté si jamais ils voulaient nous envahir. Donc le truc, c'était pour survivre, il faut faire des guerriers. Et un bon guerrier, oh bah, s'il est en colère, top quoi. Il va pouvoir bien taper sur les ennemis. Et par contre, s'il montre d'autres émotions, de la tristesse ou de la tendresse ou quoi, bon, bah, c'est pas intéressant pour un guerrier. Un beau psychopathe. Donc pas d'émotion autre que la colère.
Mais si je suis ton raisonnement, la colère des femmes à ce moment-là était tout aussi intéressante que la colère des hommes.
Ah bah
Si on
oui.
avait autant besoin de guerriers que de guerrières.
Puisqu'on vient d'un système patriarcal, c'est pas comme ça que les rôles ont été distribués. Et du coup, pour faire le pendant de ce que tu dis, moi j'ai grandi avec la croyance que la colère pour une femme c'est dangereux. Enfin, il fallait pas montrer, faut pas montrer sa colère parce que ça peut être dangereux. Et ben oui, parce qu'on vient de millénaires en fait où les femmes, dès qu'elles l'ouvraient et qu'elles étaient un petit peu en colère, qu'elles réclamaient un peu de justice, et ben elles se faisaient tuer. C'est quoi les sorcières? C'est quoi jusqu'à récemment, tu vois, le droit des femmes, c'est pas lié depuis si longtemps. Donc voilà, ça vient de quelque part. Et il y a un moment où ces croyances ont été en lien avec la réalité de la société.
Tout à fait.
Mais aujourd'hui, on peut tout à fait faire des mises à jour. Et c'est ça qui serait intéressant, justement.
Juste pour synthétiser ton propos, selon toi, c'est OK qu'on puisse dire que le contrôle de la colère des femmes, c'est justement un instrument patriarcal.
Oui, pour le coup, oui,
OK.
totalement.
Et alors, tu parles de mise à jour, vas-y, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces mises à jour, s'il te plaît?
Eh bien, la mise à jour, c'est déjà de prendre conscience qu'on est en 2021, que, ok, on a des résidus de patriarcat, mais on n'est plus exactement dans le patriarcat. Le vrai patriarcat, c'est genre le siècle, rien que le siècle dernier, une femme qui se faisait battre, mais c'était juste la normalité. Où tu veux qu'elle trouve. Qu'elle trouve refuge, bah, il n'y avait pas, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Donc déjà prendre conscience de ça, du fait que bah, la société elle a évolué et les croyances inconscientes, elles n'ont pas forcément suivi le mouvement. Donc il est temps de pouvoir se dire que c'est possible d'être totalement autonome en tant que femme et d'être totalement et de retrouver du coup pour les hommes bah, tout ce côté qui leur avait été privé quoi de la tendresse de l'empathie et tout et que juste et que ça s'équilibre et que chacun puisse être un individu pas un homme une femme ou machin d'ailleurs dans les genres c'est plus aussi clair maintenant mais juste affirmer son individualité chacun.
Ok, j'espère que la mise à jour se fera vite et efficacement.
Il y a différentes façons de faire des mises à jour, en fait. On peut faire des mises à jour. Bah, la vie t'emmène à faire des mises à jour, de toute façon. Parce que, à bout d'un moment, ces croyances limitantes, eh ben, on arrive à des limites. C'est bien beau de se dire, ben voilà, je suis fort dans ma vie, voilà, je fais qu'avancer, puis avec ma famille, voilà, je suis voilà, bon guerrier, quoi. Sauf qu'à un moment donné, la limite, ça peut être, bah oui, mais c'est quand même un peu triste de pas me sentir aussi en lien avec mes proches. J'aimerais, voilà, je vois autour de moi que c'est possible. Il y a d'autres personnes qui ressentent ça, et voilà, je suis attirée par ça. Et du coup, voilà, là j'arrive à une limite. Et peut-être que ça peut me donner envie d'évoluer. Pour moi, ça part vraiment d'une envie, en fait. Des fois on a obligé d'aller à la limite de quelque chose pour se dire bon bah j'ai fait le tour, je peux peut-être évoluer et passer à autre chose. Et le pendant pour une femme en fait, la limite de la logique de la femme soumise, c'est qu'à un moment donné, bah, à force de pas oser se mettre en colère, tu te fais bouffer par tout le monde. Donc à un moment donné, tu dis ah j'en ai marre, je me fais bouffer. Donc je vais qu'est-ce que je fais? Je vais travailler sur cette croyance-là et je vais apprendre à poser des justes limites pour moi, quitte à poser de la colère à un moment donné, mais une colère qui est juste. Et bon, ça nécessite un apprentissage aussi pour pas juste exploser et puis tuer tout le monde. Pouvoir que cette colère soit constructive.
Et ça, ça me fait penser à quelque chose de ce que tu dis, c'est que justement, je reste sur la colère et les femmes, parce qu'il y a un exemple qui me vient en tête, c'est qu'en effet, la colère chez les femmes, elle est clairement réprimée hein, dès le plus jeune âge, mais il y a une colère, t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, il y a une colère qu'on accepte socialement. Et je me demande si justement, elle n'est pas aussi violente, des fois,
Vas-y.
dans le cliché qu'on s'en fait, justement parce que c'est le seul endroit où elle est tolérée, ben c'est la colère des mères.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tu vois, quand elles protègent leurs enfants. Je sais pas si t'as
Ah
marqué,
oui.
mais t'as vu, quand une mère protège ses enfants, elle peut péter un câble autant qu'elle veut. Là, c'est ok, tu vois.
D'accord. Je m'étais pas fait la réflexion.
Est-ce que c'est pas justement parce que socialement, c'est le seul endroit où on laisse les femmes exprimer leur colère, tu vois? Voilà,
Peut-être. C'est une question intéressante. J'ai pas
on peut
réfléchi
poser,
à ça.
voilà, on pose la, on peut poser la question, on peut même la laisser en suspens. Tiens, on va laisser le soin aux auditeurices de se la poser et de réfléchir sur le sujet. J'aime bien faire ça des fois. On peut laisser la question un peu en suspens. Ça va laisser une réflexion courir. Et puis n'hésitez pas à venir sur les réseaux échanger sur cette question. Et pour le coup, on parle de la parentalité. Là, je viens d'évoquer les mères. On explique souvent aux parents qui doivent accompagner les émotions de leurs enfants. Mais alors, ça c'est bien mignon, c'est bien gentil. J'entends totalement, moi le premier défenseur des droits de l'enfant et de l'accompagnement de l'enfant en tant que personne et dans son entièreté émotionnelle aussi, c'est très gentil de dire tout ça. Mais quand on sait même pas reconnaître les siennes, comment on fait?
Ben tu galères. Non, honnêtement, je pense que c'est juste pas possible en fait. C'est comme de vouloir apprendre à son enfant à nager alors qu'on sait pas nager. Alors, ok, tu peux le faire. Tu peux le faire théoriquement. Tu peux rester sur le bord de la piscine avec une perche et puis tenir la perche pour ton enfant pendant qu'il t'essaie de l'apprendre à se nager. Mais honnêtement, moi, je pense que tout ce que tu lui transmets en faisant ça, c'est la peur de l'eau. Si toi, tu sais pas nager, en fait. Le seul truc que tu te dis, c'est ben, l'eau peut me tuer, tu peux mourir de ça, c'est dangereux. Donc, c'est difficile de transmettre autre chose que le tabou ou la peur si on n'est pas à l'aise avec ses propres émotions. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un enseigner quelque chose qu'il ne connaissait pas. Mon moniteur d'auto-école, ben, il sait conduire, quoi. Tu vois, c'est juste logique. Et du coup, comment on fait si du coup l'enfant il se noie, mais que moi aussi je me noie en même temps? T'imagines, bah, la vie, c'est pas juste une gentille piscine, tu vois. On évoquait le surf tout à l'heure, ça ressemble plus à la mer, quelque chose d'un peu vivant, un peu imprévisible. Et puis des fois, t'es même en pleine tempête, en plein milieu de la mer, avec l'impression qu'il n'y a pas la terre autour, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu ferais? Eh ben, si je m'imagine en plein milieu de la mer, où on va faire plus simple déjà, si je suis au bord de la plage, et que je suis en train de me noyer avec mon enfant aussi, et que je ne sais pas nager, c'est ça la question, et que je ne sais pas nager, ben la première chose que je fais, c'est d'appeler l'aide, quoi. Donc, si je ne sais pas nager, je ne peux pas sauver mon enfant de son émotion. Enfin, je ne peux pas l'aider, en tout cas, à vivre son émotion. Donc, la première chose, ça va être appeler de l'aide. Donc, ça peut être de la famille, des amis, un voisin. La première chose aussi, si c'est possible, c'est sortir de l'eau. Donc, sortir de l'émotion qui prend trop de place et qui est en train de me noyer. Donc, aller faire un tour de pâté de maison ou appeler quelqu'un. Enfin, y a aussi des appels d'urgence. Il y a Il y a des permanences téléphoniques aussi pour des parents débordés. Donc, c'est aussi possible. Donc, c'est un peu comme si tu étais au bord de la mer et ton enfant se noie, tu sais pas trop nager, et ben, tu appelles le maître nageur, quoi, ou la maîtresse nageur. Tu appelles quelqu'un de compétent pour aller le sauver. Et puis, une fois que tu es sorti de l'eau et que tu as failli te noyer et que ton enfant aussi, tu peux aussi te dire, ben tiens, peut-être ça serait intéressant, puisque j'habite au bord de la mer, d'apprendre à nager. Donc après, tu peux prendre des cours de natation. Et là, sur le plan émotionnel, il existe des tas de choses. Il y a des stages pour apprendre à accueillir ses émotions. Il y a une foultitude de méthodes pour accueillir ses émotions dans le corps, pour laisser le corps les digérer, pour apprendre à décrypter le besoin qui est derrière l'émotion avec l'approche de la communication non violente. Et puis après, si tu veux vraiment faire un travail de fond, tu peux aussi travailler sur les croyances limitantes. Et franchement, ça allège beaucoup.
Bah, moi, en tant que thérapeute, je peux que te dire oui, c'est un travail efficace et qui fait beaucoup de bien.
Mm-mm. Et puis, c'était un peu frileux que oui, tu as l'impression que ça serait bien d'apprendre à nager, mais tu n'es pas encore prêt à te lancer. Ben, tu peux déjà te renseigner sur la question. Il existe des livres sur les émotions, des vidéos, enfin plein de ressources en fait, qui sont moins engageantes et qui peuvent permettre de mettre un pied dans la piscine, un petit orteil dans la piscine pour se dire « Ok, à quoi ça ressemble ?» Et tout, voilà.
J'en profite pour placer qu'il existe aussi un excellent podcast qui s'appelle tout simplement Émotion chez Louis Média, voilà, produit par Louis Média, et que je conseille à tous les auditeuristes qui peuvent passer par là, parce que c'est vraiment très très intéressant.
Ok, super. Ah oui, et il y avait un dernier point concernant justement la parentalité et l'accompagnement des enfants, c'est que en fait, et ça, je l'avais vu dans les formations que j'ai faites de thérapeute sur la théorie de l'attachement. En fait, un parent, c'est pour un enfant un point de sécurité. Mmh. Et donc, quand ton point de sécurité, il est bien, il va bien, il est bien ancré, tu sens qu'il respire la santé et la joie de vivre, eh ben, ça va. Donc, en général, si le parent va bien, l'enfant va bien. Et à contrario, si le parent va mal, l'enfant va mal. Si le parent est stressé, inquiet, ben, l'enfant va le sentir. Il va absorber ça. Donc, il va être lui aussi stressé et inquiet. Et ça, je le vois avec ma fille. Tu vois, la semaine dernière, en fait, j'ai passé quelques jours où je ne me suis pas écoutée. Donc, j'ai fait des trucs dans le stress, en me forçant à faire des trucs, en me disant il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Derrière, je me suis tapée une grosse crise émotionnelle de plusieurs jours de ma fille. Ben, parce qu'en fait, le fait que je m'écoute pas, ça stressait tout le monde. Ça stressait mon compagnon, ça stressait ma fille, et voilà quoi. Et du moment où je me suis remise dans mon axe, où je me suis plus écoutée, j'ai fait des choses qui me faisaient du bien, et puis j'ai arrêté de m'obliger à faire des choses qui allaient pas pour moi, et ben, comme par magie, tout allait bien. On pouvait plus lui changer la couche, tu vois, à avoir des crises émotionnelles. Là, ben, c'est oublié, on peut de nouveau passer des moments sereins et joyeux.
C'est exactement ça. Je voudrais juste préciser un petit peu le propos pour les gens qui nous écoutent. En aucun cas, le message là qui est passé, c'est de vous dire « Soyez tout le temps heureux et bien, parce que sinon vos enfants seront malheureux. » C'est pas le propos. C'est juste que nos enfants deviennent tels que nous les voyons et aussi tels qu'ils nous voient. C'est-à-dire que quand ils nous voient prendre soin de nous, eh ben c'est aussi une façon de leur apprendre à prendre soin d'eux. Et quand ils nous voient prendre le temps d'accueillir une émotion agréable comme désagréable, eh ben c'est aussi une manière de leur transmettre ce temps qu'il faut prendre. Voilà, je pense que je voulais juste préciser ça pour qu'il n'y ait pas une injonction qui puisse ressortir
de ton merci propos. Pour ça. Donc juste pour conclure là-dessus, en fait, je pense que il y a une grande partie des crises émotionnelles des enfants qui sont évitables en fait si nous les adultes on fait notre job alors comme on peut hein, moi aussi des fois je galère, je me prends la vague et tout, mais en tout cas le plus possible et de plus en plus s'écouter pour se sentir bien en paix avec soi-même.
Et ne pas hésiter, comme tu l'as très justement souligné, avec ton image de la natation, ne pas hésiter à apprendre à nager, ou au moins se renseigner sur comment apprendre à nager, parce que c'est ce qui va grandement aider nous-mêmes, nous aider nous-mêmes, et aussi pour le coup aider nos enfants, puisque comme je viens de le dire, montrer à nos enfants qu'on accueille nos émotions, en fait, c'est le meilleur moyen de leur permettre d'apprendre à le faire, en fait. C'est con, mais c'est comme ça.
Et pas hésiter aussi à demander de l'aide. C'est aussi une façon d'apprendre à nos enfants que c'est possible de demander de l'aide aussi.
Mais tout à fait.
Et en fait, moi par exemple, j'ai passé un postpartum mais horrible. J'ai fait une dépression terrible. Je ne comprenais pas ce que je traversais. Et j'avais même envie de me tuer, tu vois. C'était assez extrême. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon compagnon, il s'est beaucoup occupé de ma fille et ça m'a donné le temps, moi, de chercher de l'aide. Donc, j'ai trouvé, heureusement, des personnes pour m'aider à décrypter ce qui se passait dans mon inconscient. Et là, j'ai compris, en fait, après avoir accouché, tu sais, c'est genre, pof, j'avais pas ça avant, puis j'ai accouché, je suis devenue mère, j'ai hérité du fardeau transgénérationnel de la mère sacrificielle. Alors, mère sacrificielle, c'est un peu genre, tout le monde passe avant. Les besoins de ton enfant passent avant, les besoins de ton compagnon passent avant, les besoins de la société passent avant. Il faut que ça ait l'air facile. Donc, il ne faut pas demander de l'aide parce que c'est la honte, en fait, de ne pas y arriver parce que c'est censé être une mère et puis c'est instinctif et puis tout ça et tout ça. Bon, voilà. Et en fait, ça, c'est juste une croyance. Et on m'a donné des clés pour sortir de ça. Et je suis passée de ma vie est finie, j'aurais jamais dû avoir un enfant, je suis prisonnière, je suis la victime de la société, on n'est pas accompagnée, je ressens énormément de colère là-dedans et tout ça, et voilà, ma vie est finie quoi. Une fois que tu as enlevé la croyance, ma vie continue et c'est hyper cool. Je fais ce qui est bon pour moi, j'ai encore il y a des nouvelles choses qui m'appellent, qui me donnent envie de vivre. Puis en plus, ma fille, elle est trop mimi. J'adore son énergie, je l'adore l'avoir contre moi, mais c'est juste un délice de lui respirer les cheveux. On vit des moments de tendresse, des moments de joie. Et j'ai un compagnon, mais qui est génial, quoi. Parce qu'il a la patience, il a la présence pour s'occuper de ma fille, mais c'est juste... j'ai énormément de chance. Et tu vois, ça, c'est juste... T'as la croyance et t'as plus la croyance, quoi. Donc, je veux dire, des fois, la vie et la couleur qu'elle a de ta vie... ça tient juste à des croyances. Et ça, c'est un truc hyper puissant que je vais du coup développer dans mon prochain livre. Parce que du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup fait grandir, en fait, tout cet épisode-là. Et c'est des choses que je vais partager. Et du coup, j'aimerais insister sur le fait que, comme on disait tout à l'heure, quand on tombe, bah, ça nous fait grandir, en fait. On apprend des choses. On a beau être adulte, on continue à grandir. Et ça vient bousculer cette croyance limitante qu'on a qu'il faut réussir du premier coup, être parfait, tout contrôler, sinon c'est la honte. Ben non, si on fait ça, en fait, on fige la vie et on ne vit plus. La réalité, c'est que la vie, elle n'est pas figée, elle est vivante comme une vague. Quand on tombe, on apprend, ça arrive, et on apprend toute la vie. Et les bons surfeurs, je suis pas une bonne surfeuse, mais je suis sûre que ben ils font comme les autres, tu vois, ils tombent, et ils apprennent et ils se régalent. Et ça peut être un nouveau challenge de voir une vague, waouh, qu'elle est belle, et je vais essayer. Et puis voilà, tu vois, de vibrer aussi avec les défis que nous donne la vie.
Ah mais complètement, je te rejoins complètement là-dessus. Surtout que moi, en tant que praticien PNL, les croyances limitantes et le fait de les lever et de voir les effets que ça a justement de lever ses croyances, c'est assez impressionnant. Hein, quand on le vit, c'est assez impressionnant. Je pense aussi que ça peut permettre, tu vois, ce genre d'expérience, d'un côté de se dire « Ok, je vais mieux », tu vois, mais aussi de trouver des sens pour certains combats, et justement pour développer, pour diriger des émotions qu'on peut avoir, comme la colère, tu vois. Ça peut être le cas de, je pense notamment aux propos qu'a pu tenir Manuela Spinelli dans ce podcast, qui est cofondatrice de l'association Parents Féministes, qui à un moment aussi a vécu cette colère de la mère, du ressenti de la mère sacrificielle, et qui à un moment s'est dit, ok, il y a des éléments qui tiennent de moi, mais il y a aussi des éléments qui tiennent de la société, et on va essayer d'agir sur la société. Je
ne
suis pas non plus en train de dire à toutes les mamans qu'il faut devenir militante, hein. C'est pas le sujet. Mais c'est juste que voilà, si à un moment il y a cette énergie qui est là, on peut aussi la diriger vers ce qui peut causer la croyance limitante pour tous les autres. Et c'est comme ça aussi qu'on va aider les futures générations à ne pas avoir cette croyance qui se transmet.
Ouais, tout à fait. J'ajouterais juste un bémol pour l'avoir vécu, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment dans la colère contre la société et tout. En fait, si on, moi, je dirais, si on ressent cet élan de vouloir changer la société, c'est bien. Peut-être c'est quelque chose qui est bon pour nous, mais la priorité avant d'aller vers ça, c'est de retrouver un équilibre personnel.
Mmh, complètement.
Voilà.
Sinon, on n'est pas armé pour le combat, si je vais utiliser cette image-là, mais sinon, en fait, on n'est pas prêt à on n'aura pas l'énergie, de toute façon, pour mener,
oui,
pour
ou
mener
on
ce
la
sujet.
fera, ou on la fera avec une énergie de désespoir, qui est pas ce qu'on veut amener dans le monde, en fait. On veut amener quelque chose dans le monde de plus serein, de plus posé, de plus accueillant, tu vois?
Ah, mais complètement. Je te rejoins tellement, si tu veux, que j'arrivais même pas à répondre. Donc, écoute, on a dit beaucoup de choses. Merci beaucoup, Armella, pour tous ces éléments. Donc, si je comprends bien par rapport à tout ce qu'on s'est dit, déjà, l'émotion, c'est une énergie qui est là pour nous mettre en avant, qu'elle soit agréable ou désagréable. C'est quelque chose qui nous passe un message et qui nous donne une énergie pour résoudre une situation ou répondre à un besoin.
Ou juste
Ok.
créer aussi, ça peut être, c'est une énergie créatrice énorme, en fait.
Ou juste créer, tout à fait. Nous avons, dans notre parcours, malheureusement, suite à la mise en place de différentes cultures et différentes sociétés, des croyances limitantes qui viennent impacter notre construction émotionnelle, notamment par rapport aux stéréotypes de genre qu'on peut connaître, et qu'il est possible de lever ces croyances limitantes, et que c'est justement comme ça qu'on arrivera, c'est en levant nos propres croyances, pour reprendre ton image de la natation que j'ai beaucoup aimée, c'est en apprenant à nager qu'on va le plus facilement transmettre à nos enfants comment nager et comment se sentir en sécurité en nageant, donc en sécurité avec ses émotions, mais que quand on ne sait pas le faire, en attendant, on peut aussi demander de l'aide ou, comme tu le disais justement, prendre le temps de sortir un peu de la situation anxiogène sur le sujet. Est-ce que ça te semble un bon résumé ?
Génial, je n'aurais
super.
Pas fait meilleur résumé.
Mais merci beaucoup, Armella, pour tout ce que tu nous as apporté.
Un grand merci à toi de m'avoir accueilli.
Et je te dis à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.